Le journal Florence Paracuelos, bonjour.
Bonjour Nicolas, bienvenue à tous. Quand les consommateurs font plier la grande distribution, Intermarché va retravailler ses recettes pour supprimer des additifs jugés nocifs. Les clients n'en veulent plus, munis d'applications qui leur disent ce qui est bon ou mauvais pour leur santé. Comme un air de déjà-vu en Israël, pas de vainqueur pour l'instant après les élections d'hier. Benjamin Netanyahou et Benny Gantz dans un mouchoir de poche. Aucun n'est en mesure de gouverner seul. Nous serons sur place dans un instant. Rome, de nouveau fréquentable. Emmanuel Macron s'y rendra aujourd'hui pour recoller la diplomatie cassée sous Matteo Salvini. Quand les Républicains s'inquiètent du procès Fillon, ne va-t-il pas polluer la campagne quelques jours avant les municipales? On verra ce qu'en dit votre invité, Nicolas.
Il s'agit du président du Sénat, Gérard Larcher, dans le grand entretien de la matinale. Appelez-nous dès maintenant, 01 45 24 7000. Le standard est ouvert, tout comme les réseaux sociaux et l'application mobile d'Inter.
Dans ce journal, aussi une plateforme de signalement du trafic de drogue annoncée hier. On verra ce qu'en pensent les habitants de Saint-Denis confrontés au deal. Et puis des camions autonomes en file indienne sur l'autoroute. C'est peut-être pour bientôt.
France Inter.
Mieux que le Nutri-Score, bien trop rare sur les étiquettes, l'application Yuka et ses 11 millions d'utilisateurs, téléphone en main au supermarché, elle vous signale que tel paquet de gâteaux est bien trop sucré, que tel autre, qui paraissait pourtant sain, est bourré d'additifs nocifs. De quoi faire réfléchir les distributeurs, et c'est Intermarché qui a dégainé le premier. Le groupe va modifier d'ici un an 900 des produits de sa marque. Recette à changer pour en expurger 142 additifs. Le client est roi, Rémi Brancato, l'agroalimentaire s'aligne.
Désormais, pour comparer les produits dans un rayon de supermarché, on sort son smartphone.
C'est très simple, il faut scanner le code barre.
Avec l'application Yuka, Marie obtient la composition de ce vinaigre balsamique, par exemple.
Alors, il me montre les additifs. Là, il n'y en a qu'un, mais c'est un rouge. Alors, c'est un risque élevé. Là, c'est du caramel au sulfite d'ammonium.
Pas terrible.
Dit comme ça, c'est pas hyper sexy comme additif, donc voilà.
Et l'application donne une note de 0 à 100 à chaque produit. Elle propose des équivalents de meilleure qualité. Zora ne peut plus s'en passer.
C'est une appli que je recommande à tout le monde. Ma mère, elle est pas très instruite, tout ça. Elle parle pas très bien français, mais Yuka, elle connaît quoi. J'ai pas un très gros budget, mais je suis prête à payer un peu plus cher ou à me serrer la ceinture sur certains trucs pour bien manger.
En France, 11 millions de personnes ont téléchargé l'application. Une tendance de fond pour le président d'Intermarché. Thierry Cotillard a donc décidé de retirer 142 additifs de produits de marque distributeur. Résultat, 900 recettes à revoir.
En tant que distributeur, il est essentiel d'être proactif pour avoir des produits les mieux notés possibles. 2/3 des Français qui utilisent Yuka ont, depuis 12 mois, décidé d'abandonner une marque ou un produit.
D'ici un an et demi, les additifs seront remplacés par des produits plus sains. Alors Intermarché l'assume, les prix pourraient augmenter.
Et dans la série, c'est substances nocives qu'on n'a pas envie d'absorber, ces particules de carbone suie retrouvées dans les placentas de certaines femmes après l'accouchement. C'est une étude belge qui le révèle. Ces polluants sont émis par les pots d'échappement et les feux de bois. On ne sait pas quels effets ils peuvent avoir sur le fœtus.
Il est 8h03, Florence. Qui a gagné les élections en Israël?
Personne pour l'instant. Comme lors des précédentes législatives il y a 5 mois, selon les dernières estimations, Benjamin Netanyahou et son rival de centre droit, Benny Gantz, sont au coude à coude. Aucun n'a de majorité. Avec nous, Frédéric Mettezo, en direct de Tel Aviv. Bonjour.
Bonjour à tous.
Frédéric, personne ne revendique la victoire à l'heure qu'il est, mais les deux rivaux sont persuadés de pouvoir gouverner?
Oui, le premier à prendre la parole en début de nuit, c'est Benny Gantz, le leader centriste de Bleu Blanc, ancien chef d'état-major de l'armée, souhaite composer un gouvernement d'union nationale. On écoute Benny Gantz au micro d'Omar Waman.
Nous allons attendre les résultats définitifs, mais nous savons déjà que Netanyahou n'a pas réussi le pari qu'il s'était fixé. C'est la deuxième fois que le peuple nous donne sa confiance. Oui à l'unité, non à la division. Non à la corruption.
Réponse de Bibi Netanyahou au cœur de la nuit. Le Premier ministre en poste depuis plus de 10 ans pense qu'il pourra composer un gouvernement alliant seulement les partis de droite et les religieux.
J'ai parlé ce soir avec tous les partenaires du Likoud. Nous sommes tous d'accord pour avancer ensemble. Dans les jours qui viennent, nous allons négocier pour former un gouvernement fort, sioniste, et pour éviter l'installation d'un gouvernement dangereux et anti-sioniste. Je veux continuer à protéger le peuple d'Israël.
Alors Frédéric, pour l'instant c'est le grand flou, quand est-ce qu'on y verra plus clair ?
Alors peut-être ce midi, peut-être demain, voire plus tard. Et une fois composée la nouvelle Knesset, le président israélien va recevoir les leaders des partis élus et chacun va lui recommander un premier ministre. Celui qui représentera alors le plus de sièges, Gantz ou Netanyahou, sera désigné. Le nationaliste laïque Lieberman, avec sa dizaine d'élus, pourrait faire la bascule. Lui défend une union nationale resserrée sur son mouvement bleu-blanc et le Likoud. Sans les députés juifs religieux et sans les arabes, les candidats arabes, véritable sensation du scrutin, ils devraient être une douzaine, c'est-à-dire la troisième force du pays. La constitution du nouveau gouvernement pourrait prendre jusqu'à un mois. En hébreu, Florence, on appelle ça le balagan, le bazar.
Frédéric Mettezo en direct de Tel Aviv avec Christophe Papon pour la liaison Israël sans majorité, analyse de Pierre Aski juste après ce journal. Et puis même cause et mêmes effets en Espagne depuis les élections du mois d'avril. Le socialiste Pedro Sanchez n'a pas réussi à former de majorité. Les Espagnols vont donc revoter, eux aussi, ce sera le 10 novembre, et ce sera leur quatrième législative en 4 ans.
Il est 8h06, Florence, Emmanuel Macron de retour à Rome.
Et oui, après le départ de Matteo Salvini, fini les invectives entre les deux capitales. Le président va donc rencontrer son homologue et le chef du gouvernement Giuseppe Conte pour relancer les relations entre les deux pays. L'immigration fut le grand sujet de discorde avec le précédent gouvernement. Depuis, l'Italie a rouvert ses ports aux rescapés sauvés en Méditerranée, mais n'entend toujours pas assumer le problème seul, Bruce de Gelsin.
L'Italie souhaiterait ne pas être la seule à voir débarquer les réfugiés dans ses ports. Rome plaide pour une rotation des ports afin que la France, l'Espagne ou Malte accueillent aussi les navires des ONG. À Paris, on indique que la demande n'a pas été formulée et que pour des raisons juridiques et humanitaires, c'est le port le plus proche qui doit être privilégié. Mais la France, satisfaite de ses nouvelles relations avec une Italie qui a changé de logiciel et est redevenue clairement pro-européenne, la France insiste pour une répartition stable, prévisible et automatique des migrants, comme le réclame l'Italie. Car jusqu'à maintenant, les chefs d'État s'entretenaient à chaque fois au téléphone pour savoir quel pays accueillerait quel nombre de réfugiés. La France, elle rappelle que depuis un an et demi, elle est le pays qui a accueilli le plus de migrants. Il faudrait qu'un maximum d'États membres acceptent ce mécanisme de solidarité. Paris et Rome sont confiants, mais Giuseppe Conte met tout de même dans la balance des sanctions financières pour ceux qui ne joueraient pas le jeu. À Rome, Bruce de Gelsin, France Inter.
Quand un parti politique demande à la justice de déplacer un procès pour cause de campagne électorale, plusieurs élus des Républicains veulent en effet changer les dates du procès Fillon. Le couple comparaîtra du 25 février au 11 mars pour les emplois fictifs présumés de Pénélope. À quelques jours des municipales, le parti a peur du télescopage, Cécilia Arbonin.
Deux figures de la nouvelle génération des Républicains se demandent pourquoi un ancien poids lourd du parti, disparu des radars depuis 2 ans, réapparaît dans la lumière d'un prétoire à la veille d'un scrutin électoral. Fabien Di Filippo, député de Moselle.
C'est vrai que dans une année qui compte 365 jours, 52 semaines, on peut se demander pourquoi celle-là.
Aurélien Pradier, député du Lot, estime que pour ce genre d'affaires, une période de réserve devrait être observée.
Lorsqu'on est dans un temps électoral où on fait appel à la démocratie, la justice n'a sûrement pas à faire elle-même son travail durant ce temps-là. Par exemple, les chambres régionales des comptes examinent les comptes des collectivités et ces chambres régionales des comptes ne peuvent pas rendre d'avis dans les 3 mois qui précèdent les élections municipales.
Fidèle parmi les fidèles de François Fillon, Valérie Boyer, députée des Bouches-du-Rhône, en appelle à la plus haute juridiction du pays.
Soit c'est le hasard du calendrier et à ce moment-là, pour que la justice soit rendue sereinement, j'espère que la présidente de la Cour de cassation modifiera la date. Soit c'est pas le hasard et c'est une manœuvre électoraliste.
Gérard Larcher, président du Sénat, prévoit de rencontrer prochainement Chantal Arens, la première présidente de la Cour de cassation. Démarche surprenante alors que les dates du procès ont été fixées en présence de maître Antonin Lévy, l'avocat de François Fillon.
Christophe Castaner défend ses troupes inquiètes pour leur retraite. Je soutiendrai jusqu'au bout la spécificité du statut des policiers et des gendarmes, dit-il. Les agents des forces de l'ordre ont des bonifications pour partir plus tôt. Or, le rapport Delevoye préconise de les accorder en fonction de la dangerosité des missions. Allô, la police, on deal en bas de chez moi. Des coups de fil comme ceci, les commissariats en reçoivent déjà, mais une plateforme d'appel sera directement dédiée à ces signalements. C'est l'une des mesures du plan anti-drogue annoncé hier. Qu'en disent les principaux concernés, ceux qui croisent tous les jours des dealers? Yann Gallic s'est rendu à Saint-Denis, où parents et habitants se mobilisent désespérément contre le trafic.
Dans les quartiers nord de Saint-Denis, les dealers sont installés à la vue de tous, au coin des rues, au pied des immeubles, aux abords des écoles. Certains vendent même du cannabis à moins de 100 mètres du commissariat.
Nos enfants, pour aller à l'école, passent devant un point de deal. Quand ils font la sieste à la maternelle, ils entendent les guetteurs hurler. Moi, ce qui m'effraie le plus, c'est qu'aux yeux des enfants, c'est devenu une sorte de normalité.
Catherine Denis habite ici depuis une quinzaine d'années. Avec d'autres parents d'élèves, elle tente de se mobiliser face au trafic de drogue.
Rien que le fait de se mobiliser, on se met en danger déjà. On a des menaces physiques. J'ai une maman dans l'école qui s'est fait taper par un dealer devant ses enfants.
Dans son plan anti-drogue, le gouvernement veut mettre en place une plateforme d'appel pour signaler les points de vente. Catherine Denis doute de l'efficacité d'une telle mesure.
La réponse gouvernementale avec ce plan anti-drogue, elle ne me convient pas, effectivement. Si on n'a pas une réponse à la fois économique, de santé publique, on se pose la question, pourquoi ce gouvernement, il ne veut même pas entendre parler d'un débat sur la dépénalisation?
Le trafic de drogue est la conséquence de la démission de l'État dans certains territoires comme la Seine-Saint-Denis, selon Catherine Denis. Ici, il faudrait plus de moyens pour les écoles, la santé, la justice et la police. Face aux dealers, dit-elle, la réponse ne peut pas être uniquement sécuritaire.
Yann Gallic, 4 ans après l'attentat avorté du Thalys, une reconstitution doit avoir lieu cet après-midi. Le terroriste présumé va devoir reproduire toute l'attaque du 21 août 2015, empêchée, souvenez-vous, par des militaires américains. L'avait fait tout de même un blessé grave dans l'Amsterdam-Paris. La première demande de reconstitution avait été refusée l'an dernier à cause du film de Clint Eastwood.
Il est 8h12, Florence, après la voiture, voici le poids lourd de
des camions en peloton sur l'autoroute, connectés entre eux. Certains conduisent tout seuls ou presque, et ce serait pour bientôt. Plusieurs constructeurs maîtrisent déjà cette technologie. Ils appellent ça le platooning, Sébastien Sabiron, qui permettrait de limiter les coûts et d'améliorer la sécurité.
Imaginez une file de 4 semi-remorques. Le premier est conduit par un chauffeur, les autres suivent automatiquement sans que leur conducteur n'ait à toucher le volant. Jérôme Flassaillet, responsable produit chez Volvo Trucks France.
En allant vers l'automatisation de nos véhicules, eh bien, on gagne principalement sur les situations de freinage d'urgence où les systèmes sont beaucoup plus réactifs que ne peuvent l'être le conducteur qui est derrière le volant.
Aujourd'hui, la distance minimale entre deux camions est fixée à 50 mètres. Avec le platooning, elle peut tomber à 10 mètres, une manière aussi d'économiser du carburant. Jérôme Flassaillet.
Vu qu'on réduit les distances, on gagne en aérodynamisme. Et là, on parle de réduction jusqu'à moins 25% de carburant et donc d'émissions de CO2.
Autre avantage, dans ces camions autonomes, les chauffeurs se fatiguent beaucoup moins et leurs temps de roulage peuvent être largement augmentés. Bernard Jacob, directeur scientifique délégué à l'IFSTAR, l'Institut français des sciences et technologies des transports.
Un camion, dans une période de 24 heures, pourrait parcourir en moyenne 900-950 km. Au lieu d'aujourd'hui 700. Si on part du port de Rotterdam, qui est le principal point d'entrée de marchandises en Europe, on pourrait irriguer pratiquement 250 millions de consommateurs en une journée au lieu de 150 millions. C'est tout à fait considérable.
Reste à faire évoluer la réglementation. En France comme en Europe, les premiers pelotons semi-autonomes pourraient parcourir nos autoroutes après 2025.
Moins de commotion cérébrale chez les rugbymen du top 14 69 lors de la saison dernière contre 91 pour la précédente, selon la commission médicale de la Ligue. Les arbitres sont plus sévères, les équipes ont droit à 12 remplacements et les médecins interviennent dès le premier choc grâce à la vidéo, ce qui limite ces accidents. Sale journée pour Lille en première journée, au premier jour de la Ligue des Champions. Lille qui a perdu 3-0 à Amsterdam quand Lyon a fait match nul un partout contre le Zénith Saint-Pétersbourg. À suivre ce soir, Real PSG, ou plutôt PSG Real à 21h au Parc des Princes. De l'art contemporain train dans une friche industrielle, ça s'y prête évidemment. Et cette année, la Biennale de Lyon a investi les anciennes usines électroménagers de Fagor-Brandt. On y faisait des machines à laver. Elles ont été fermées il y a 4 ans. Une cinquantaine d'artistes ont créé leurs œuvres sur place, inspirées, Mathilde Imberti, par l'âme du site.
Les usines Fagor ont fermé en 2015 et le lieu parle encore. Le marquage au sol, les lumières blanches, quelques machines hors d'usage, les artistes ont dû créer leurs œuvres in situ. Stéphane Tidet a conçu un énigmatique paysage de chaux dans le coin d'une grande halle.
J'aime bien travailler dans des lieux assez différents qui sont autres que le White Cube, en tout cas l'espace d'exposition habituel. Faire sonner des histoires, en fait, dans des espaces de typologie un peu forte. Enfin, moi, je suis très content d'être ici, oui, très content d'avoir été invité.
Un rendez-vous qui prend de l'ampleur, se réjouit sa directrice artistique, Isabelle Bertolotti, ample comme cette friche industrielle réinvestie 29 000 mètres carrés.
On est sur des échelles extraordinaires. Donc on a par exemple un tunnelier, un morceau de tunnelier qui fait plus de 230 tonnes. Tout ça, c'est possible parce qu'on se trouve dans cette usine. C'est aussi un moment d'expérimentation.
Là, une coulée perpétuelle de peinture suspendue à des câbles. Ici, un cabinet queer dans une ancienne fosse à presse. Les artistes s'inspirent de l'histoire du lieu. La coréenne Minu Klim la ressent intensément.
Oui, je trouvais que c'était quand même incroyable. Comme si c'était juste un rêve. Qu'il y avait plein de gens qui auraient cru, après qui auraient travaillé, et après, disparu.
Les habitants du quartier Gerland, pour certains des anciens ouvriers de l'usine Fagor, sont les invités de la Biennale pour le week-end d'ouverture. À Lyon, Mathilde Imberti, France Inter.
Voilà, la 15e Biennale d'art contemporain de Lyon ouvre aujourd'hui jusqu'au 5 janvier. Vous y verrez par exemple cette performance suédoise où des danseurs emprisonnés dans des membrales textiles suspendues au plafond évoluent de façon curieuse. Une installation mexicaine qui met en scène 43 robes d'enfants qui montent et qui descendent lentement à l'aide d'un système robotique, ou encore ce canal phosphorescent où une boule de flipper géante évolue, ça c'est coréen.
Voilà, eh ben, c'est l'art contemporain. On s'y retrouvera. Florence Paracuelos, merci.